Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Batman Légende. Et oui, Nicolas n'est pas là, il est toujours à la recherche d'un ennemi dans Gotham City. Et voilà, il prend un petit congé ce soir, donc je le remplace et j'espère que je le remplacerai au mieux. Et donc je suis accompagnée ce soir de deux personnes de la team et peut-être une troisième qui nous rejoindra sûrement en cours de route. Donc déjà, Alianor, coucou.
Oh, j'ai failli... Salut. T'as failli dévoiler mon vrai nom.
Non, mais bon, mais c'est comme Batman, on sait déjà qu'il est Bruce Wayne. Donc... Et il y a aussi Siegfried avec nous.
Coucou tout le monde.
Comment vous allez?
Super. Très content de participer au débat.
Super. Et ben en plus, c'est un gros teasing. Pas au débat. Je n'ai pas du tout dit le sujet du débat. D'abord, faire une introduction. D'abord, voilà, de présenter nos intervenants. Et puis, déjà, vous remercier toujours de nous écouter encore plus dans les podcasts. C'est vraiment cool. Et donc, ce soir, on s'est dit qu'on allait parler de capitalisme et de Batman. Parce que Batman, on adore. Et le capitalisme, c'est d'actualité. Et est-ce qu'on adore ou pas? On ne sait pas. Mais on s'est dit que le sujet se prêterait bien. Donc, je vous ai préparé, les amis, quelques petites questions. Mais l'idée, c'est que, voilà, qu'on débat ensemble, que n'hésitez pas à rebondir par rapport aux arguments de chacun. Déjà, je me suis dit, pour éviter la question assez classique de Batman est-il capitaliste, je pense qu'on y répondra au fur et à mesure de nos échanges. Mais plutôt, pour commencer, dans quelle lecture vous avez vu les premières marques de capitalisme chez Batman, quel comics vous a un peu marqué en vous disant voilà, on est déjà en train de parler, on parle toujours de façon de politique dans les comics, mais de particulièrement voilà de systèmes économiques et donc de capitalisme. Siegfried.
Alors bah, c'est un peu le comics aussi tout le temps, mais l'un des premiers comics que j'ai lu et celui qui m'a vraiment marqué de ce point de vue-là, ça reste The Dark Knight Returns de Frank Miller, puisque même si on commence avec un Batman, donc un Bruce Wayne qui sort de sa retraite de Batman après une trentaine d'années, en étant quand même âgé mais millionnaire, au fur et à mesure de l'aventure, il se dépouille de plus en plus de ses richesses, et à la fin, Alfred meurt, le manoir est détruit, et il poursuit la révolution dans une espèce de cave secrète avec d'anciens délinquants qui sont un peu victimes du crime. Et donc, on a vraiment cette idée qu'il se dépouille de son identité de millionnaire. Il abandonne complètement la vie civile et son identité de Bruce Wayne pour être vraiment dans une lutte qui sera indépendante, détachée des contingences de l'argent, pour être vraiment dans une forme de liberté absolue de lutter contre l'État. Et pour lutter contre l'État, il faut qu'il se dépouille de tout le reste. Donc, c'est à la fois un des premiers comics que j'ai lus et un des comics qui pousse cette réflexion le plus loin et qui montre vraiment qu'il y a un lien quand même entre action de Batman et économie.
Mais si je dis pas de bêtises, dans la collection Infinite, dans le Batman détective, ils reviennent un peu aussi sur ça, cet aspect que Batman n'a plus du tout tous ses gadgets, toute la maison, et qui revient à quelque chose de plus simple pour affronter le crime dans Gotham. Si je crois que c'est Batman détective, hein. Non.
Oui, mais sauf qu'il y a absolument aucun propos dans ces comics, parce que quand il a besoin de gadgets, ben, il va retrouver une cachette dans laquelle il avait des gadgets avant de perdre sa fortune. Et bon, ben, quand il a besoin d'argent, il en a de nouveau. Enfin, c'est vraiment pas du tout traité. En plus, comme ça passe entre les mains d'une dizaine d'auteurs différents, à chaque fois, le rapport à l'argent qu'il est supposé avoir perdu à cause du Joker est assez nébuleux, donc il n'y a pas vraiment de réflexion autour de... Alors qu'effectivement, c'est un grand thème, la perte de l'argent, enfin on se souvient que Green Arrow, par exemple, avait perdu toute sa fortune en 70, et c'est ce qui l'avait convaincu ensuite de devenir complètement anarchiste, alors qu'il était un playboy millionnaire. Donc on était supposé retrouver un peu ça avec cette vibe de Bruce Wayne qui perd sa fortune dans la Joker War, et bon, finalement...
Oui, mais c'est pas plus exploité que ça, malheureusement, dans ces récits-là, quoi.
Non, bah, c'est pour ça que dans The Dark Knight Returns, il y a une radicalité quand même de cette perte qui est assez marquante, je trouve, alors qu'à mon avis, quand on lit les Détectives Infinite, même s'il est supposé avoir perdu sa fortune, on ne se dit pas forcément qu'il y a une réflexion sur le rapport à l'argent dans Batman, malheureusement, alors que c'était effectivement, ça aurait été l'objet.
Mmh. Et toi, Aliénor, est-ce que tu as une lecture comme ça, une lecture peut-être différente, où tu as vu un peu les pans du capitalisme?
Alors, moi, c'était aussi, aussi dans Dark Knight Returns, parce que, ne serait-ce que parce que c'est un des premiers comics que j'ai lu. Donc voilà. Donc, j'ai pas d'autres. Après, c'est d'une manière générale, enfin, globalement, quand même, dans tous les comics, enfin, dans la majeure partie des comics de Batman, pour moi, il y a le capitalisme qui ressort, enfin, plus ou moins, bien sûr. mais ne serait-ce que l'attitude parfois paternaliste. Alors, est-ce que le paternalisme est capitaliste? Ça, c'est à discuter, mais pour moi, ça en fait partie. Mais pour moi, ce gros aspect paternaliste fait partie de l'aspect politique, plus généralement politique de Batman, mais plus particulièrement capitaliste du super-héros. Donc, voilà. Donc, je fais très attention aussi à cette. Enfin, moi, c'est cet aspect paternaliste qui me marque à chaque fois dans les comics.
T'as un
parce
exemple
que
là,
c'est
par
quelque
exemple
chose d'assez. Je sais pas comment dire. Le paternalisme, c'est un sujet qui me touche, en fait.
Ouais.
Parce qu'à la fois, je trouve ça bien et pas bien. Donc, ça me questionne tout le temps. Donc, à chaque fois qu'il y a une notion de paternalisme chez Batman, qui est une notion en fait qu'on aime bien, en général, les lecteurs de Batman, et c'est ça qui nous pose question, parce que pourquoi est-ce qu'on aime ce paternalisme? Bah, faut se poser les questions, en fait. Enfin, voilà. Pour moi, c'est une manière, en fait, de me poser des questions par rapport à la politique en général. Voilà.
Effectivement, je comprends tout à fait cette complexité du paternalisme dans Bruce Wayne, enfin ce que ça peut impliquer comme sentiment complexe chez le lecteur, parce qu'autant c'est agréable de voir ce patron d'une entreprise qui semble connaître le nom de chacun de ses employés, qui a un rapport quand même très humain, et en même temps, bah, ça renvoie à un imaginaire, à un mythe du bon patron, ce qui implique qu'on peut être, on peut être un multimillionnaire et quand même très humain, très attentif au bien-être des gens, et ça fait une espèce d'éloge quand même d'une certaine figure du capitalisme, alors que il y a quand même aussi quelque chose de profondément malsain dans ces rapports d'argent complètement disproportionnés entre le PDG multimillionnaire et chaque employé. Et entretenir le mythe du bon patron, bah, ça entretient évidemment aussi dans la réalité, l'imaginaire que les millionnaires milliardaires qu'on connaît dans le monde réel, enfin qu'on connaît, dont on sait qu'ils existent dans le monde réel, on peut en déduire qu'ils peuvent avoir ce rapport humain avec les plus petits employés, avec chaque petit agent de ménage de l'entreprise, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Donc, il y a quelque chose d'à la fois joli, parce que ça montre à quel point Batman, qu'il soit Batman ou qu'il soit Bruce Wayne, s'intéresse même à la vie du plus petit, mais en même temps, il y a un décalage avec les réalités du capitalisme, et donc on ne sait pas très bien quel message ça peut faire passer sur le monde réel et la société réelle.
Tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre Bruce Wayne qui, lui, répondrait à un capitalisme parce qu'il est PDG de Wayne Enterprise et qui répond à des clichés aussi, tu vois, de patrons, etc., enfin d'organiser des soirées, de faire, même s'il fait des dons, tu vois, pour l'orphelinat, bah voilà, d'utiliser cet argent pour ailleurs, quoi. Et est-ce que Batman, lui, serait pas différent, tu vois? Est-ce qu'il serait pas je dirais pas plus socialiste, mais est-ce qu'il y aura pas une différence entre Bruce Wayne et Batman?
À la fois sur cet aspect financier, peut-être qu'il peut y avoir une différence. Par contre, sur l'aspect moral, malgré tout, enfin, ouais, après, ça dépend, il ne faut pas non plus mélanger capitalisme et puis bord politique, c'est-à-dire droite. Il y a très bien des capitalistes de gauche, enfin, ça existe. Et ce n'est pas forcément incompatible non plus, parce que la gauche, ce n'est pas que l'aspect financier, tout comme la droite, c'est aussi l'aspect moral. Et en fait, sur l'aspect moral, Batman est quand même plutôt de droite aussi. Enfin, voilà. Et tandis que Bruce Wayne pourrait être de gauche. Enfin, je sais pas. Hein. Je pense que moi j'ai l'impression qu'il y a une différence, c'est-à-dire Bruce Wayne est capitaliste, mais socialement de gauche, enfin point de vue moral, etc. Et Batman, lui, bah n'est pas capitaliste dans le sens où il s'en fout de l'argent, lui ce qu'il veut c'est sa mission, etc. Il veut aider tout le monde, le pauvre, le riche, etc. Mais par contre, bah, il a quand même certaines valeurs de droite, d'ordre, en fait, de maintien de l'ordre.
Ouais, mais Batman peut pas s'en foutre de l'argent parce que c'est tout son arsenal, tous ses gadgets sont liés à de l'argent. Alors, on connaît des récits, évidemment, où il peut l'être sans, et qui fait à la force de ses poings et une Bat Family. Mais le Batman qu'on connaît et qu'on se représente la première figure, c'est celui qui, quand même, a besoin d'un soutien financier.
Certes, mais c'est pas lui qui se le procure, le soutien financier, si on fait la dichotomie entre Batman et Bruce Wayne. Voilà.
Siegfried, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense déjà qu'il faut distinguer trois versants. Il y a à la fois l'aristocrate Bruce Wayne, le patron d'entreprise Bruce Wayne et Batman, plus que juste Bruce Wayne et Batman. Parce qu'en tant qu'aristocrate, bah, il est plutôt dans la charité, dans la philanthropie. Ça, c'est que ce qu'on voit à la fois dans les comics et dans les films. Bah, il va donner de l'argent de façon très, très libérale, très généreusement, dans des fondations, par exemple. Enfin, là, on est vraiment dans un imaginaire philanthropique états-unien où si on est riche, on a une espèce de responsabilité morale de créer des fondations caritatives bienfaisantes. Parce qu'on a cette responsabilité de faire croire qu'on est quelqu'un de bien en investissant l'argent d'une façon plutôt positive. L'argent qui est à la fois celui de son héritage et celui de Wayne Enterprises. En tant que patron d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez peu PDG, en fait, parce qu'on le voit assez peu siéger au sein du conseil d'administration. Il laisse globalement toutes les décisions de l'entreprise à un comité, soit d'actionnaires, soit un conseil d'administration, enfin, selon les comics, selon les histoires, dans une logique assez, assez classiquement libérale. Lui, il est juste actionnaire majoritaire d'un conglomérat qui est en bourse. Et comme ce conglomérat a des actions qui sont plus ou moins nébuleuses, enfin, on ne sait jamais exactement quelle est la liste de ce qu'est supposé faire la Wayne Enterprise, ben, finalement, le fait qu'il soit assez distant de tout ça, ce n'est pas très important, mais ça fait qu'on peut créer des intrigues où il subit tout à coup une OPA ou une crise des actions ou une perte de l'argent de son entreprise. Enfin, ça, c'est plutôt un prétexte à la fois à lui donner de l'argent de façon un peu illimitée et à faire rebondir l'intrigue, mais sans vraiment insister sur son côté patron, contrairement à un personnage comme Iron Man, par exemple, où pour le coup, le côté PDG est beaucoup plus présent. Et bon, bah ça, on y reviendra peut-être plus tard, mais ça fait une différence aussi entre le patron de droite et le personnage de droite et le personnage de gauche, à mon avis. Et enfin, Batman, lui, ben, est évidemment beaucoup plus distant de tout ce rapport à l'argent, parce que même s'il a besoin de l'argent pour ses gadgets, ben, au fond, ce qui caractérise surtout Batman, plus que l'argent, c'est vraiment la volonté. Et c'est grâce à cette volonté qu'il surmonte quand même la plupart des problèmes et qu'il va au contraire lutter pour le coup vraiment dans la rue, aux côtés du peuple, tout en profitant des avantages qui lui viennent de son argent, évidemment. Il lutte pour le coup très concrètement pour les défavoriser. Donc même si à la fois en tant qu'aristocrate, que PDG, il va investir de l'argent pour aider les socialement défavorisés, c'est surtout en tant que Batman qu'il va lutter très concrètement aux côtés du peuple, individuellement. Mmh. Et dans les trois cas, il est quand même dans une logique de foi dans l'individu. Foi dans l'individu Batman pour la lutte individuelle ou foi dans l'individu en tant que pourvoyeur d'argent et d'aide aux autres plutôt que foi dans l'establishment, puisque bon, il est toujours dans cette logique que le patron, le PDG et Batman sont plus utiles que l'État, parce que l'État est toujours suspect de malhonnêteté ou d'inefficacité, ouais. Là où en tant qu'individu, que milliardaire ou que super-héros, ben, il est quand même beaucoup plus efficace.
Et ça, c'est très capitaliste, et capitaliste aussi à l'américaine. Surtout, il y a aussi ça, il faut voir les différences, c'est que c'est vraiment, Batman, c'est vraiment le capitaliste à l'américaine et pas à la française. C'est-à-dire, nous, en France, par exemple, le patron, comme l'État est fort, le patron n'a pas besoin de verser beaucoup d'argent, enfin voilà, le patron n'a pas une vocation à faire des fondations, des œuvres caritatives, à dire redistribuer l'argent. Est-ce qu'aux États-Unis, comme il n'y a pas cet état social, c'est au grand patron, c'est un devoir en fait, limite c'est pas une exception, enfin c'est naturel que Bruce Wayne, c'est presque un devoir capitaliste, le fait que Bruce Wayne redistribue l'argent, parce que c'est le cas de tous les milliardaires aux États-Unis quasiment, enfin c'est un devoir, c'est comme ça, c'est implicite, comme il n'y a pas d'état, et ben c'est au capitaliste et c'est à l'individu de redistribuer l'argent. Voilà.
Autre devoir aussi, on va accueillir Benoît sur le live qui est arrivé.
Coucou.
Salut.
Transition. Benoît. Je vais pas couper l'équipe. Ça va, Benoît?
Bien, toi, ça va? Vous allez bien?
Oui, super. Bon, Batman, il est capitaliste ou pas?
Ah ben, je crois qu'on ne peut pas faire mieux à part Tony Stark, mais ce n'est pas le même univers.
tu sais, moi, ça va, je suis plus souple que Nico, donc on peut citer des personnages de l'univers Marvel. On a même le droit de dire qu'on en lit, mais pas trop.
D'accord.
peut-être juste pour que tu reprends avec les autres la toute première question, et après on continue dans ce qu'on avait dit. J'avais demandé la première lecture où tu as pu voir du capitalisme dans Batman, donc tu vas peut-être répondre la même lecture que les deux autres.
La première lecture, ça me parle un peu dans No Man's Land. Où on voit justement toute cette cité qui s'effondre et comment ils essayent de rebâtir après. Je sais pas, là ça me parle. Ça me parle un peu.
Ah, parce que du coup, ils ont cité The Dark Knight Returns de Frank Miller.
Oui, Oui, aussi. Oui.
Beaucoup. Mais du coup, ouais, c'est cool parce que tu proposes quelque chose de différent. Et justement, c'est une bonne transition aussi parce que je voulais aussi aborder, donc tu parlais de cité qui s'effondre et on parle de Batman, mais aussi la ville de Gotham qui subit, elle, de plein fouet le capitalisme. À votre avis, comment vous expliquez l'évolution de Gotham à travers le capitalisme, qui la croit et qui lutte face à ça, hors Batman, bien sûr. Benoît.
On va dire le plus grand défenseur, c'était plutôt, enfin, au départ, c'est un peu Harvey Dent, au départ, dans certaines histoires. Et là, récemment, alors c'est la lecture qui est toute récente, c'est celle du Riddler, là, de l'acteur qui joue, le Riddler d'ailleurs.
Paul Dano, le Annie
voilà. 1. Ouais. Ouais, et c'est omniprésent dans tout le tome, cette histoire de capitalisme. Et ça m'a vraiment marqué. Bon, c'est une lecture que j'ai lue hier, hein, donc voilà.
Ça se traduit comment?
Ça se traduit par le fait que Enigma, c'est même pas son nom, mais Edward est un comptable, et en fait, il voit l'ensemble de la comptabilité des grandes sociétés et de la mafia. Et du coup, il voit les jeux d'argent qu'il y a. Donc, il comprend le système qui a corrompu Gotham sur l'ensemble du procureur, du maire, du commissaire, etc. Et comment la mafia s'est immiscée dans toutes les structures de Gotham. Et c'est pas mal foutu à ce niveau-là. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, c'était une bonne lecture. J'ai bien apprécié ça.
Ouais, c'est vrai.
Il y a un jeu de force, en fait, sans doute, entre les mafias et les riches, enfin les familles riches de Gotham, finalement. Donc les constructeurs, entre guillemets, les principaux acteurs de la ville de Gotham, c'est ces deux forces qui sont présentées comme d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Voilà.
Oui.
Donc, ça simplifie beaucoup, sans aucun lien, bien sûr, financier entre les deux, puisque les gentils sont les gentils et les méchants sont les méchants. Alors, parfois, dans certaines histoires, bon, on voit qu'il y a un lien sous-jacent, mais en fait, on ne reflète pas la réalité, puisque il n'y a pas de mafia sans soutien politique. Donc voilà. Alors, moi, si on reprend les films, par exemple, dans le dernier Batman, là, on voit très nettement la corrélation entre les deux, entre les grandes familles.
Alors après, ça, je voulais en revenir après, mais je te donne la parole, Siegfried, mais dernièrement aussi, et c'est peut-être en lien avec le comics The Riddler, qui est lié à l'acteur qui apparaît dans The Batman, mais aussi le Joker de Joaquin Phoenix, où là, c'est omniprésent, en fait, cette idée de montrer le système financier, de montrer la différence des classes dans le Joker, de montrer plus la classe populaire et que le Joker devient un peu un porte-étendard des personnes laissées pour compte. Enfin, j'ai l'impression qu'on aborde beaucoup plus ça dernièrement, mais c'est peut-être lié aussi à ce qu'on vit aussi dans notre monde au niveau politique. On pourra revenir juste après. Ouais. Siegfried, tu voulais dire quoi par rapport à Anaïs ?
Après, les interrogations frontales du rapport d'une Gotham défavorisée ou en proie aux dégâts du capitalisme, on en a plus ou moins depuis les années 60 et surtout dans les années 70. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez ancien, justement parce que comme Batman est milliardaire, utiliser ce rapport de Gotham au capitalisme, aux malversations de l'argent, que ça soit des PDG, des politiciens corrompus ou la mafia, c'est assez tentant. On oppose le Batman milliardaire à d'autres milliardaires. Ça a du sens comme confrontation. Et du coup, pratiquement tout ce qui a trait à l'argent dans le monde de Batman est mauvais. On sait que chaque fois qu'on voit un personnage riche, à un moment donné, on va découvrir qu'il utilise sa richesse du mauvais côté. Et on a même eu des intrigues où on a découvert que l'argent de Thomas Wayne, par exemple, était lié à la mafia. Enfin, se souvient du jeu de Telltale, par exemple, ou des soupçons dans le film The Batman. Enfin, quand il y a de l'argent, c'est forcément mauvais. Et justement, toute la question, du coup, ça pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent et l'utiliser de façon morale. Est-ce que Batman peut être un porte-étendard d'un capitalisme bienfaisant, alors même que l'intégralité des personnes qui ont de l'argent dans son monde l'utilisent à des mauvaises fins, à commencer par Luthor, qui est l'emblème du mauvais milliardaire. Donc, avec ce contre-modèle de Batman contre Lex Luthor, le bon milliardaire contre le mauvais. Et bon, du coup, pour moi, il y a un message qui est plutôt anticapitaliste, parce que bon, si les seuls bons milliardaires ce sont les gens comme Batman, c'est que personne ne peut être un bon milliardaire parce que personne ne peut ambitionner d'être comme Batman. Jamais Steve Jobs ou Elon Musk n'auraient pu ou ne pourraient être des Batman et aller se déguiser en chauve-souris pour aller combattre le crime de la nuit, par exemple, parce qu'il y a une notion de... Justement, ils compensent ce qu'il peut y avoir de pernicieux dans le fait de posséder de l'argent, qui est prêt... Enfin, je cite Mélenchon qui disait qu'être milliardaire, il faut être névrosé pour être millionnaire et vouloir continuer d'accumuler de l'argent. Et c'est un peu le cas aussi de Batman, qui sait aussi qu'il y a quelque chose de malsain dans cette recherche d'accumulation et qui compense un peu ça. C'est une espèce de sacrifice personnel. Il compense le fait de sa fortune en allant risquer sa vie d'une façon complètement individuelle tous les soirs. Et il y a cette logique, à mon avis, de compensation des privilèges par ce risque permanent dans une volonté quasiment messianique et auto-sacrificielle, beaucoup plus populaire.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi un autre aspect, en ayant débattu avec mon copain à ce sujet, où lui il me disait, du peu qu'il connaît de Batman, en disant, mais aussi il a des manières, il a une figure un peu capitaliste, avec par exemple sa relation à Alfred, qui même si nous on en connaît un peu plus de la figure paternelle et du lien et de sa façon à Batman d'aimer qui est très particulière, il y a quand même plusieurs histoires ou même des films où vraiment c'est considéré un peu par moment comme son esclave et où lui réagit comme un riche à ne pas du tout faire sa vaisselle, se faire à manger, enfin tu vois, plein de choses comme ça. Et d'un autre côté, même si on abordait tout à l'heure le fait qu'il donnait des sous à des associations, etc., il pourrait par exemple aussi, et ça c'est abordé hein, dans le Batman One Night de Sean Murphy, donner des sous à la police, parce qu'au lieu de se substituer à la police, aider aussi les fonctions publiques de Gotham.
Il t'en donne, non ? Beaucoup de comics, ils donnent des sous à la police, ils donnent des moyens financiers à la police. Moi, je suis partagée, je trouve effectivement que... Enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, Siegfried, mais moi, j'y vois aussi un aspect idéaliste, c'est-à-dire quand on compare, j'aime bien comparer Batman, Superman, y trouver aussi des similitudes. Superman, c'est pareil, c'est le mec qui fait le bien absolu autour de lui. Il n'existe pas dans la vraie vie. Batman, pareil, il fait le bien absolu, enfin, non, peut-être moins le bien absolu, mais du moins, en matière financière, c'est le patron bon, par excellence, absolument bon, enfin, tel qu'on l'idéalise. Et il n'existe pas non plus dans la société, du moins, on l'a jamais trouvé encore. Et pour moi, c'est un peu, on a tous besoin dans la littérature, on a toute la littérature d'ailleurs a longtemps servi à ça, la littérature, les mythes ont tous eu un objectif de donner aux hommes un idéalisme qui n'existe pas mais qui est destiné à être atteint. Et pour moi en fait c'est ça Batman, c'est-à-dire que en fait ça peut exister, ça pourrait exister, c'est difficile, c'est tellement difficile, c'est tellement peu humain que ça n'existe pas encore, mais c'est un idéalisme à atteindre, voilà. Et pour moi, c'est un peu un message comme ça, c'est-à-dire on espère, en lisant Batman, on essaye de se convaincre, comme en lisant Superman d'ailleurs, on essaye de se convaincre que l'homme bon existe, et pour Superman, c'est que l'homme bon existe, qu'on peut faire le bien pour le bien, sans arrière-pensée, qui est quand même une valeur qui existe depuis tout le temps. Et pour Batman, c'est aujourd'hui, comme le capitalisme est une des valeurs principales des sociétés occidentales, et c'est espérer que le bon capitaliste existe. Voilà. Comme on ne peut plus supprimer le capitalisme, c'est espérer que le bon capitaliste existe. Et voilà. Je suis peut-être un peu... moi, je suis très idéaliste, donc ça correspond. C'est peut-être ce que je recherche aussi en lisant des trucs, mais c'est une réflexion que je me fais beaucoup en lisant les super-héros et tout ça, où je me dis que aujourd'hui le bon, le bien n'est plus valorisé, en fait, dans les super-héros, dans les littératures, et ça correspond à peut-être au fait qu'on se rende compte que ça n'existe pas et qu'on perd, on est dans des sociétés qui perdent l'idéalisme. On n'est plus idéal. Enfin, ça n'existe plus. C'est pour ça que, voilà, il y a plein de choses.
On cherche plus de réalité aussi, les comics.
Ouais, on cherche plus de réalité, ce qui n'est pas mauvais. Enfin, je veux dire, voilà, je ne critique pas ça, en fait. C'est juste un constat que je fais et qui me questionne, qui me surprend souvent. C'est que Superman est has-been. Et pourquoi Superman est has-been? Parce qu'on sait que l'homme bon n'existera jamais et qu'on n'a plus foi en cet idéalisme. On a toujours su que Superman n'existerait jamais, mais malgré tout, c'est un idéal à atteindre et on espère l'atteindre. Aujourd'hui, on est dans une société complètement désabusée, et qui est vrai, enfin, je veux dire, ça reflète la société actuelle, ça reflète plein de problèmes. Et donc, on n'a plus d'idéal. Voilà.
D'où cet essor d'anti-héros aussi, parce qu'on nous ressemble un petit peu. Et même, c'est complètement vrai ce que tu dis, parce que là, aujourd'hui, j'ai lu une des parutions prochaines d'Urban Comics qui traite de l'IA, l'intelligence artificielle. Et ça fait 3-4 comics en fait, que je lis autour de ce thème-là, parce que c'est actuel et parce que je pense que les comics ont besoin de refléter, de nous parler un peu plus pour qu'on s'y sente plus proche et on se sent peut-être moins proche d'un Superman à caleçon, peut-être, Benoît.
Ça me fait penser ce que tu me disais à un épisode dans Batman Taz, si je ne dis pas de bêtises, où on voit Bruce Wayne qui... Il y a un méchant, je crois, dans l'épisode, mais c'est un homme de main, un homme de seconde main. Et en fait, après, à la fin, on voit qu'il a été embauché par Wayne Enterprise, du coup, pour le réhabiliter. Donc, il y a ce truc-là du Batman va cogner le malfrat, mais derrière, Bruce Wayne va peut-être essayer de le réhabiliter. Donc, il y a une espèce de... Il essaye, au moins dans certains récits, d'avoir un espèce de cercle vertueux, ce qui est idéaliste, hein, ce que tu disais. Après, est-ce qu'il y a le bon et le mauvais milliardaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les reconnaître. Mais voilà, tu disais tout à l'heure dans White Knight, il y a aussi le fait que même si Gotham paraît peut avoir des bons jours et peut sembler des fois plutôt pas mal, en fait, on comprend que même si vu du dessus, ça paraît bien, en fait, en dessous, c'est tout rongé par la corruption et rangé par les malversations, par les malfrats, par la mafia, quoi. Et c'est fait tellement en douce et intelligemment fait que finalement, des fois, ça peut passer loin du radar de Batman qui, malgré tout, ne peut pas être partout tout le temps et qui, des fois, se contente d'aller frapper des malfrats, justement, qui sont pauvres aussi. C'est un thème récurrent qui revient. Voilà, c'est du riche qui vient et qui va taper des malfrats qui n'ont rien, qui sont sans le sou et qui n'ont plus que la criminalité pour s'en sortir.
Siegfried, tu voulais rebondir?
Pour moi, il y avait deux manières de répondre à ta question initiale. C'était pourquoi est-ce que Batman ne finance pas la police? Effectivement, je pense que c'est une question qui est hyper importante. Pour ce rapport au capital, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est que déjà, s'il faisait ça, Batman changerait littéralement le monde de Gotham. S'il commençait à investir dans la politique ou la police, par exemple, et le problème, c'est que les comics doivent quand même refléter en partie notre réalité. Donc, si on commençait à voir dans le monde de Gotham un milliardaire qui finance le monde et aide le monde à aller mieux, la ville de Gotham deviendrait meilleure et du coup, ça ressemblerait beaucoup moins à notre monde, alors qu'on a besoin de ce rapport. Mais ça, c'est un peu ce que disait Anaïs avec Superman aussi. Si Superman commence à utiliser son pouvoir pour régler la faim dans le monde ou renverser les dictatures, ce qu'il a tout à fait le pouvoir de faire, du coup, il créerait un monde qui serait totalement différent du nôtre, donc avec de nouvelles histoires, mais des nouvelles histoires qui déconnecteraient le monde des comics du nôtre, alors qu'on a besoin, au contraire, de créer ces liens. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet état, ce que Humberto Eco appelle le temps éternel des comics, où on est obligé de rester dans une espèce de statu quo, parce que si les super-héros, effectivement, commençaient à modifier le monde comme ils sont supposés le vouloir, on commencerait à avoir des dissociations entre le monde des comics et notre monde réel, qui nous empêcherait de nous héberger dans ce monde. Donc il faut malheureusement préserver un statu quo, alors même que c'est paradoxal avec le fait d'avoir des super-héros qui sont à la fois puissants et veulent changer les choses. L'autre réponse, c'est que Batman quand même porte une logique qui est assez accable. Enfin, on le voit à chaque fois, il est souvent en concurrence avec la police, parfois c'est la concurrence qui est gentille, parfois c'est la concurrence qui est plus délétère, où il peut être littéralement poursuivi par la police qui lui tire dessus. Mais globalement, je vois qu'il fait confiance à la police. Il fait confiance à 2-3 éléments de la police qui sont plus vertueux, à Montoya ou à Gordon, par exemple. Mais il ne fait jamais confiance à toute la police, parce qu'il y a toujours des gens dans la police qui sont des mafieux corrompus qui vont finir par essayer de le taper. Et on est toujours dans une logique qui est quand même anti-establishment, ce qui peut être paradoxal. Mais Batman est un personnage qui est contre l'establishment parce qu'à chaque fois qu'il tente de faire confiance à la moindre institution, il finit par être trahi. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il porte une lutte individuelle ne peut pas se fier dans l'État, ne peut pas se fier dans la police, qui évidemment... Et dans tous les comics dans tous les comics Batman politiques, c'est assez intéressant de voir cette idée que il vaut mieux faire confiance à un milliardaire qui se déguise en chauve-souris pour aider les dominés que de faire confiance à la police, parce que la police, elle finira toujours par tabasser les pauvres. Et c'est assez puissant comme message quand même. Ça dit pas mal de choses, et indépendamment de la place de Batman, parce que voilà, c'est un personnage imaginaire, effectivement, un milliardaire qui se déguise en chauve-souris, ça peut représenter tellement de choses différentes que c'est pas facile de dire exactement ce que politiquement ça signifie. Autant voir qu'à chaque fois, la police va toujours finir par se retourner contre les pauvres si elle n'est pas guidée par un super-héros, ça dit quand même quelque chose vraiment d'une vision du monde politique qui est sombre, cynique, pessimiste, mais peut-être un peu trop réelle aussi. C'est pour ça que dans l'émission qu'on avait faite avec William Blanc sur la politique dans Batman, moi, je défendais une idée qui, à mon avis, est vraiment fondamentale, c'est que autant les actions de Batman, qui sont des actions libérales d'un milliardaire qui va aller tabasser des gens dans la rue, elles invitent plutôt à voter pour Trump, parce qu'on est dans cette logique de défense d'un idéal individuel par la violence, autant les actions, l'idéologie et les actions de Bruce Wayne, elles feraient tout pour que Bernie Sanders soit élu, parce que Batman Bruce Wayne est un personnage qui est fondamentalement de gauche, même si, objectivement, ces actions, par leur foi dans le libéralisme, dans le capitalisme et dans l'individu, incitent plutôt, si on essaie de les imiter, à croire dans des gens comme Musk ou comme Trump, malheureusement, alors que ça ne correspond pas du tout à l'idéologie fondamentale qui est celle de Bruce Wayne. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans The Dark Knight, où Bruce Wayne fait absolument tout pour que Dent soit élu à la mairie de Gotham, parce que lui, tout ce que veut Batman, c'est qu'on n'ait plus besoin de lui, et qu'on ait enfin une politique saine qui lui permettrait à lui de juste retourner dans les ombres et ne plus rien faire. Et malheureusement, à chaque fois, il est obligé de revenir, alors qu'il n'en a pas du tout envie, parce qu'il se rend compte que on ne peut pas croire dans une politique saine, alors que c'est tout ce qu'il voudrait, parce qu'il est vraiment mu par cet idéal de gauche, et malheureusement, à chaque fois, il revient à des actions de droite, entre guillemets, avec cet idéal du vigilantisme, dont on sait à quel point il est mu par des intérêts, par des enjeux réactionnaires. À chaque fois, il est obligé d'y revenir, parce qu'il ne parvient pas à modifier le monde autrement.
Mais est-ce que du coup, Batman peut être Batman en étant pauvre ?
Alors, si une question peut-être. Oui, parce qu'on l'a prouvé avec le Batman de Zurenar. Il n'a pas besoin d'avoir tellement de gadgets pour être Batman.
C'est la volonté qui domine. Là encore, c'est capitaliste. Ouais. C'est la volonté qui domine chez Batman. C'est pas les moyens. Donc, c'est-à-dire que si quand on veut, on peut. Voilà. C'est vraiment clairement l'adage de Batman au fond. Dès lors qu'il a la volonté, il fait tout pour réussir grâce à son intelligence, grâce à son adaptation au milieu, grâce à son adaptation à tout ce qui l'entoure. Et il peut très bien, même sans rien, sans aucun moyen, il peut gagner parce que il a la volonté, et c'est ça qui surpasse l'ensemble en fait pour moi.
Et puis après, avec toutes les années d'entraînement, faut pas déconner non plus, c'est pas parce qu'il a un gadget.
Nous on a les mêmes gadgets, on fait pas grand chose.
Je pense que pour bien répondre, il faut s'entendre sur ce que tu appelles être pauvre. Est-ce que Batman, s'il perd son argent, peut continuer d'être Batman et de lutter? Clairement. Est-ce que la richesse fait quand même partie du personnage Batman? Aussi, on peut pas.
C'est là où je veux dire que ça fait quand même partie de son identité.
Une des qualités de Batman, c'est justement la tension entre les milliards qu'il possède et son action d'individu se déguisant en chauve-souris et allant tabasser des criminels. Si on retire le côté milliardaire, ce n'est plus Bruce Wayne, c'est plus Batman. Donc autant on peut tout à fait imaginer des intrigues, des arcs entiers où on ne parle pas du tout du manoir Wayne ou de son argent, c'est tout à fait possible. On a eu quantité de comics absolument mémorables où on ne parle pas de son rapport à l'argent. Autant le fait qu'il ait quand même à la fois cet atavisme aristocratique et cette fortune, ça fait complètement partie du personnage. Finalement, ça revient au débat qu'on avait eu sur Batman peut-il être noir, par exemple. Non, parce que les privilèges de Batman en tant que blanc sont aussi complètement inhérent de son personnage et des contradictions qu'il porte dans les comics. C'est parfois interrogé, parfois ça ne l'est pas, mais ça fait complètement partie du personnage, au point que c'est indissociable bah, de ses qualités et de ses défauts, de ses limites et de ses qualités.
Alors même si, après, au niveau de la richesse, on a déjà vu aussi Batman dans plusieurs histoires et cacher son argent, enfin faire en sorte que justement tout son attirail et tout l'argent qui détourne, on va dire, de Wayne pour construire tous ces gadgets, voilà, qui laisse ça secret avec comptes offshore, etc. Enfin, ça s'est vu. Après, récemment, on l'a fait un petit peu diminuer. Il n'est plus milliardaire, il est millionnaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il fait un peu plus gaffe. Mais ça reste quand même une part importante du personnage parce que bon, bah, on est quand même habitué à le voir avec des gadgets. Puis maintenant, en tant que manchot, il faut quand même bien qu'il trouve une main bionique. Désolé, spoiler. Je suis désolé. Pardon. Ils nous ont fait une Star Wars. Désolé, pardon.
Bah, je sais pas parce que du coup, quand j'ai fait un peu les recherches, justement, j'étais tombée sur l'article de BFM qui revient sur Batman et dont Siegfried intervient dedans. Et donc, ils estiment la fortune de Batman actuellement à 80 milliards de dollars. Donc, du coup,
ça va.
Encore. Bah oui, donc je pense qu'il choisit pas trop entre pas Terry, tu vois. Enfin, c'est pas lui qui choisit, tu vas me dire c'est Alfred qui fait ses courses, ouais, mais il a pas le temps. C'est le crime de la night, ça n'attend pas.
Ouais, il est pas là au supermarché en disant rillettes ou foie gras.
Je sais pas. Ce serait incroyable, il n'y a pas encore de comics qui l'abordent, c'est bien dommage.
C'est con.
Mais n'empêche, je réfléchissais, il y a beaucoup de fois où vous avez mentionné que Batman est un bon patron. Et du coup je me fais l'avocat du diable, mais c'est un patron quand même qui n'est jamais là. Enfin, moi, pour avoir eu à un moment donné un gros patron, celui qui avait le plus d'argent, j'espère qu'il écoute ce podcast d'ailleurs, justement ce statut là et il y en a des différents, faisait qu'il donnait du coup ses ordres à ceux qui étaient en dessous de lui, donc à mes supérieurs, mais des fois les transmissions peuvent se perdre, et il faisait office que deux personnes qui donnaient l'argent et d'hommes un peu invisibles qui n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants, ce qu'on peut aussi avoir dans certains comics où il est complètement à l'ouest, il le décide, il le veut, parce que sa première mission, c'est de sauver Gotham, et des fois, il va s'accorder des moments pour gérer l'entreprise, mais il délègue beaucoup, quoi. Donc, bon patron quand même.
Il sait s'entourer. Je dirais qu'il sait s'entourer avec Lucius Fox, avec d'autres personnages à qui il accorde sa confiance. Donc à partir de ce moment-là, oui, ça peut être un bon patron. Et puis des fois, un patron qui n'est pas là tous les jours, franchement, des fois, ça fait du bien.
Mais du coup, ça devient plus un actionnaire qu'un patron. Tu vois ce que je veux dire en termes de...
Pour moi, je dirais que là aussi, c'est une matière d'idéal. C'est-à-dire, dans l'idéal, un patron absent n'est pas forcément un mauvais patron. S'il est bien, comme tu dis, s'il est bien entouré. Sauf qu'en général, il y a toujours, comme il n'est jamais là, il y a la contradiction. Comme il n'est jamais là, malgré tout, c'est un peu, il est au-dessus des gens, il n'a pas conscience des réalités des choses en fait. Donc voilà. Après, un patron, je suis fonctionnaire territorial. Notre grand patron, c'est le maire. Le maire, bien sûr, on ne le voit jamais. Mais si un maire écoute ceux qui sont sur le terrain, ça existe quand même malgré tout, un bon patron, c'est-à-dire un maire qui est attentif à ce que disent ses subordonnés, entre guillemets, et les experts, ceux qui connaissent les métiers, et voilà, et il fait ses mesures en fonction de ce qu'on lui dit, et il écoute les conseils, finalement, en fait, ça existe plus ou moins parfaitement. Il y en a qui ont beau ne jamais être sur le terrain, ils n'en font qu'à leur tête et ils font en fonction de ce que eux ils pensent qu'est la réalité, sans écouter les chefs de service, et là, c'est la pagaille totale. Donc, dans l'idéal, un patron qui n'est pas là peut très bien être un bon patron s'il écoute les gens et s'il s'entoure des personnes, s'il écoute les gens malgré tout, voilà. Après, quelqu'un qui n'écoute pas et qui pense savoir, parce que malgré tout il est patron, donc il pense qu'il sait la réalité alors qu'il n'est pas du tout dans la réalité, et là c'est la catastrophe, voilà.
Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast actuellement, il y a le chat Siegfried, je pense qu'il aimerait intervenir, qui est à la caméra. J'aurais adoré avoir des mots Non, là on est en mode câlin, donc ça ne marche pas. Donc du coup, Siegfried, si tu veux prendre la parole au lieu de ton chat.
Oui, tout à fait. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un bon patron dans le sens où je suis pas sûr que ce soit un patron tout court, en fait. Parce que dans les faits, il ne prend pratiquement jamais de décision sur son entreprise, à part si c'est pour virer un actionnaire qui aurait abusé de ses pouvoirs pour détourner de l'argent d'entreprise, par exemple. C'est quelqu'un qui effectivement est absent, qui reçoit l'argent de l'entreprise, mais qui ne prend jamais de décision stratégique, à part effectivement pour créer Batman Inc., par exemple. Si c'est pour dire, tiens, on va prendre tout l'argent de l'entreprise et puis fonder financer des Batman dans le monde entier. D'accord, oui, bon là c'est un peu un PDG, mais sinon c'est au point qu'on ne sait pas exactement ce que fait Batman, ce que fait Wayne Enterprise. Enfin, on sait que c'est vaguement un conglomérat sans trop savoir ce que ça produit, et encore ça dépend un peu des comics et des films. Donc c'est plutôt un bon supérieur dans le sens où, comme on l'a dit, c'est le genre de patron qui va connaître le nom de chacun de ses employés, et s'il apprend qu'il y a quelque chose qui va mal pour ses employés, il va tout faire pour les aider, il va s'assurer que le comité d'actionnaires soit aussi vertueux que possible, mais en soi, c'est pas vraiment un PDG dans le sens où il prend pas vraiment d'action stratégique sur la production de l'entreprise. Et c'est toute la différence par rapport à un Tony Stark, par exemple. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que avoir ce patron extrêmement absent, c'est ce qui permet aussi de pouvoir croire que Batman est quand même quelqu'un qui est mu par une idéologie assez de gauche, dans le sens où c'est un bon supérieur parce qu'il est vraiment préoccupé par l'humain. Alors que Tony Stark, qui lui est constamment PDG d'entreprise, où là on sait exactement ce que l'entreprise va produire, et où Iron Man est très présent en tant que PDG, bah, ça participe aussi du fait que Tony Stark est bah, beaucoup plus du côté de l'État et beaucoup plus de droite. Et c'est pas pour rien que dans la Civil War, par exemple, bah, c'est vraiment l'exemple même du con ultralibéral du côté de
Parce
l'État
que
et qui va contre les libertés avec une idéologie extrêmement réactionnaire. Et toute la dérive de Mark Millar est illustrée dans Civil War par le personnage de Tony Stark. Avec lui, voilà, on a une vraie opposition. Aussi dans cette manière de voir le PDG, le rôle du PDG dans une entreprise.
Et même de le dire, parce que Tony Stark parle beaucoup plus d'argent
Oui.
dans ses rapports avec les gens,
Voilà.
etc. Alors que finalement, Batman slash Bruce Wayne n'en parle rarement, enfin ne fait pas l'éloge ou ne même même au niveau de sa Bat Family. Enfin, il n'y a pas forcément un moment où il va surenchérir en disant, bah oui, mais bon, le manoir fait tant de mètres carrés. Enfin, tu vois, il y a aussi peut-être ce côté plus pudique
Comme
au
si
niveau de ses.
c'était tabou, comme si l'argent finalement c'est mal et donc on ne montre pas qu'il y a. Enfin, on ne montre pas. On le cache sous le tapis, voilà, c'est.
Ben,
Mais
les
c'est pas
seuls
l'argent qui fait tout, quoi.
les seuls
moments
pour moi, c'est plus que Iron Man est dans enfin Tony Stark est dans un exhibitionnisme capitaliste où il est quand même fier de sa réussite individuelle dans ce mythe du self-made man qui expose son argent comme instrument de pouvoir, là où Batman s'en fiche en fait. Lui n'est pas il a absolument aucune fierté d'avoir de l'argent. En plus, c'est l'argent qu'il a essentiellement hérité
L'héritage,
et voilà,
ou
c'est
qu'il touche,
ça.
ou qu'il touche presque automatiquement par son entreprise sans avoir besoin de vraiment faire quelque chose. Donc c'est pas qu'on a honte ou que c'est un tabou, quoi que ce soit, mais enfin, à la rigueur, oui, c'est plus un instrument de honte que de fierté. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ben, finalement, il va essayer de compenser le fait qu'il soit riche en allant aider les pauvres par son action individuelle, en allant dans la rue, s'exposer exactement comme les pauvres s'exposent dans la rue tous les jours en risquant sa vie, parce qu'il ne cherche absolument pas, à aucun moment, effectivement, il essaie d'imposer son argent comme instrument de pouvoir auprès de ses proches. C'est quelque chose qui n'existe pas pour lui. Il est dans un rapport d'indifférence par rapport à l'argent qu'il possède, qui montre quand même que les auteurs ont aussi perçu le fait que Bruce Wayne n'est pas un personnage capitaliste. Oui, c'est un objet du capital, c'est un sujet du capital, c'est un personnage qui ne peut pas vivre sans ses rapports au capital, mais c'est pas un capitaliste dans le sens où lui ne cherche absolument pas à accumuler de l'argent, et c'est un non-enjeu dans son existence et dans sa morale.
C'est ça, et puis on le voit dans plusieurs histoires où il découvre que cet argent, des fois, est forcément et peut-être sale, parce qu'il vient de malversations de l'ensemble de sa famille bien avant. Et donc, on a l'impression aussi qu'il se sert du coup de cet argent pour faire le bien. Parce que, enfin, pas que ça lui brûle les doigts, mais du coup, peut-être cet argent, il le pense sale. Donc, du coup, autant l'utiliser, voilà, que ce soit dans les œuvres de charité, que dans ses gadgets, pour aider à la justice, tout simplement.
Et justement, je parlais tout à l'heure des. Parce qu'on parle, je pense, globalement beaucoup de lecture, mais et tout à l'heure, tu mentionnais le jeu vidéo Siegfried, mais sur les films et sur les adaptations cinématographiques, les dernières avec The Batman et Joker, où c'est pour moi omniprésent. Enfin, on parle énormément, de plus en plus de politique. Et c'est quoi votre vision par rapport aux dernières productions qu'il y a eu? Vous avez 2 heures.
C'est gentil.
Bah déjà dans The Batman, on voit clairement cet aspect-là, comme quoi l'argent c'est rien pour Bruce Wayne, enfin, c'est-à-dire il s'en fout. Et pour lui, ça le dans la fameuse scène où Alfred lui dit, ben il y a vos actionnaires, enfin ou je sais plus qui viennent pour discuter d'argent, et il dit oh là là, non j'ai pas envie de ça, qu'ils aillent se faire voir limite quoi. Donc
il est aussi plus seul dans ce film-là. Donc ouais, moins intéressé aussi.
Pour lui, c'est vraiment une corvée, en fait. Il est très jeune. Il est aussi très jeune dans ce film. Quand on est jeune, même milliardaire, je pense qu'on a plus envie de faire autre chose que de penser à l'héritage familial. Enfin, j'en sais rien, hein, mais on le voit dans certains héritiers assez jeunes qui sont pas fichus de diriger une entreprise et qui font couler l'entreprise de leurs parents. Mais voilà, il y a plus cet aspect-là dans The Batman. Et puis dans Joker, bah c'est l'argent sale. Enfin, ça c'est clair. C'est à bas les riches. Et puis voilà. Donc c'est vraiment l'argent vu d'un très mauvais côté. L'argent et le capitalisme, c'est pas vertueux quoi.
Ouais. Siegfried.
C'est compliqué à dire parce que d'un côté effectivement l'argent est dénoncé dans Joker par exemple, d'un autre côté il est dénoncé via une figure qui elle-même n'est pas très louable. Enfin,
je suis d'accord.
Je mettrai la rigueur en commentaire. J'avais fait tout un article justement sur le commentaire politique de Joker pour montrer que même si c'est un film qui se veut anticapitaliste, en fait, il est aussi mu par des enjeux de droite. Et enfin, pour moi, le réalisateur, c'est un type de droite qui croit qu'il a des sensibilités de gauche, mais qui, en fait, dans sa manière de représenter les conflits de classe, manifeste quelque chose de plus réactionnaire que de vraiment progressiste. Donc, c'est des enjeux qui sont assez complexes. Je remettrai mon article, j'analyse ça de meilleure façon que ce que je pourrais exprimer là. Mais, par exemple, tous les problèmes liés tous les enjeux de salaud de riche sont concrétisés par Thomas Wayne, alors que Thomas Wayne ne fait rien de vraiment mauvais dans le film. C'est supposé être quelque chose de mauvais pour le spectateur, mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'on attendrait littéralement de n'importe quelle personne dans un discours public, de normal de n'importe quelle personne. Donc c'est pas tout à fait juste d'en faire un représentant des salauds de riches, alors même que il incarne quelque chose d'assez commun, d'assez banal et qui n'est pas condamnable en soi. Là où le personnage incarné par Joaquin Phoenix apporte beaucoup plus de problèmes que Thomas Wayne. Enfin bref, c'est beaucoup
plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
C'est complexe, mais voilà pour moi.
Je disais dans l'article aussi sur le Joker, sur Batman Legend, c'est que beaucoup ont cru que c'était un film contre pour la révolte, pour la révolution, mais en fait, il détourne complètement, enfin, il se fout de la gueule vraiment de la masse populaire qui se révolte. Enfin,
après, le film est arrivé hein, au moment des Gilets jaunes, et il y a eu énormément de récupérations sur ce film-là aussi.
Je comprends pas comment beaucoup n'ont pas vu cette critique de la révolution en fait. Et justement, ça craint si on n'a pas vu ça, c'est qu'on pense vraiment que les masses populaires ne sont capables que de ça, ce qui est triste. Ouais. Enfin voilà, si on pense que c'est une ode à la révolution, elle est pas très belle la révolution qu'on idéalise quoi. Enfin, donc je trouve que c'est pas bon, voilà, là on part sur un pas sur un autre sujet parce que c'est politique et capitalisme, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, Joaquin Phoenix, il défonce tout le monde en fait, il défonce aussi bien le capitalisme que ceux qui le combattent et de façon vraiment ridicule et voilà, une manipulation des masses en fait.
Comment on est dans le sujet, les populations ont tellement besoin de modèles dans l'imaginaire qu'elles ont été obligées de mal interpréter le film Joker pour s'en saisir comme une figure de leader. Donc, quelque part, tant mieux si ça, enfin, tant mieux d'un point de vue de gauchiste, si ça a pu servir de porte-étendard à des révoltes dans le monde entier. Donc, ça, c'est quand même un peu positif. Mais c'est aussi ironique parce qu'effectivement, ça ne correspond absolument pas ni au personnage dans le film, ni à l'idéologie véhiculée par le film.
Par rapport au film, ce qui est rigolo, c'est que, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis refait un peu quelques films Batman. Dans le premier, finalement, on a un Bruce Wayne qui se fiche complètement de l'argent, ce que tu disais aussi, Siegfried, puisqu'il part complètement. ailleurs, il s'en fout de sa famille. Dans un deuxième temps, dans le Dark Knight, on voit toute la corruption qu'amène cet argent et justement l'argent qu'il utilise pour devenir vraiment concrétiser son rêve de Batman. Dans le troisième, on le voit en tant que milliardaire reclus, etc. Donc on revient un petit peu au départ. Là, je suis d'accord après avec vous sur l'analyse au niveau du Joker. Et dans le dernier, alors. Je pense que la lecture du dernier comics de Riddler est intéressante pour comprendre et faire un prologue au film, où on voit vraiment ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, cette corruption qui est sous-jacente et que personne ne voit et qui gangrène l'ensemble de la société. Donc, ça peut être intéressant. Après, est-ce que Batman a la capacité de voir l'ensemble de ces choses-là et d'analyser tous les systèmes financiers de la ville pour pouvoir y remédier. Je pense que c'est plus un boulot pour Bruce Wayne que pour Batman.
Donc Batman ne peut pas lutter contre le capitalisme.
Il peut, parce que je veux dire, c'est Batman et qu'on a déjà lu des comics où il est à la fois en même temps sur Internet que dans certains trucs financiers. Enfin, techniquement, il est partout, mais il peut pas non plus être partout tout le temps. Et je pense qu'il y a certaines choses qui passent évidemment sous son radar. Et c'est là où justement les criminels sont intelligents.
En profite, ouais.
Ouais, et de toute façon, on est obligé de les avoir, ces criminels intelligents, sinon il n'y a plus de.
Sinon, on s'ennuie, tu peux le dire.
Voilà, c'est ça. Tu prends un Joker, par exemple, qui disparaît pendant plus d'un an et qui arrive à faire ses coups en douce, etc. C'est qu'à un moment donné, il y a bien quand même des gens pour l'aider. Il y a bien des gens pour venir et foutre des bombes, des machins. Il y a des choses qui passent forcément sous son radar. Et pourtant, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut des relations. Donc, pareil, encore une fois, les vilains en eux-mêmes ont besoin de ce capitalisme-là pour pouvoir justement s'étendre.
Ouais, complètement. Siegfried ?
Donc, c'est un peu ce qu'on dit tout à l'heure. Effectivement, Batman ne peut pas être contre le capitalisme dans le sens où Batman est lui-même une figure du capitalisme. Et s'il luttait contre le capitalisme, il modifierait trop à la fois l'identité de Batman, qui est comme ce qu'on va chercher en tant que lecteur ou spectateur, et le monde dans lequel il vit, alors qu'on a besoin qu'il ressemble au nôtre. Donc, il ne peut pas modifier les structures, alors même que, idéologiquement, il devrait vouloir changer ses structures. Donc, il y a malheureusement ce besoin-là, alors même que. Et, ce qui fait qu'il lutte souvent contre les dérives du capitalisme, et ça, on le voit tout le temps. Ces luttes contre des PDG corrompus ou des mafieux qui comptent des politiciens, enfin ça c'est quand même constant dans ces histoires, mais malheureusement ça n'aboutit pas à des modifications de structure, et effectivement c'est ce qui est aussi abouti aux problèmes qu'on peut relever dans Joker ou même dans The Batman, parce que finalement The Batman, au début on se dit que le Riddler est une figure intéressante et presque héroïque, en tout cas anti-héroïque, dans le sens où elle abat des politiciens corrompus. Donc ça, c'est quand même un message qui peut plus ou moins nous parler. Au moins, c'est quelqu'un qui essaie de changer les choses, là où Batman échoue à changer les choses. Et finalement, cette figure qui est un peu une espèce de figure de terroriste de gauche finit par vouloir exterminer toute la population civile, à commencer par des pauvres d'ailleurs, parce que inonder la ville de Gotham, ça va évidemment aboutir davantage de morts de pauvres que de riches. Et abattre une candidate à la mairie qui veut changer les choses et qui en plus issue apparemment des classes dominées, en quoi est-ce que ça revient? En quoi est-ce qu'il lutte contre le capitalisme corrompu en faisant ça? Du coup, son message n'a plus aucun sens et ça essaie de montrer une espèce de porosité entre un terroriste de gauche et une figure qui est beaucoup plus trumpiste, puisque là, évidemment, on pense à la prise du Capitole en voyant ça, comme si ce personnage pouvait passer de façon tout à fait naturelle d'un combat à l'autre et ça délégitime un peu le combat de gauche. Mais pour moi, ça vient aussi de ce problème-là que, comme on a des comics avec un personnage qui est quand même plutôt de gauche et anticapitaliste, mais qui ne peut pas l'être trop parce qu'on ne peut pas trop modifier le monde, ça aboutit à des vilains qui, eux-mêmes, dans leur vocation, ont besoin d'être complexes au point d'être contradictoires, paradoxaux, voire mal écrits. Et bon, ça, là, on vous renvoie au podcast qu'on avait fait sur The Batman, ce qu'on a pu relever aussi des contradictions internes du film, qui, à mon avis, sont des défauts. Tout le monde ne les avait pas vus comme des défauts, mais... Ça vient aussi de cette complexité à écrire un personnage qui doit porter des valeurs qui sont quand même plutôt négatives et les convertir en valeurs positives. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des vilains dans ce monde-là? On en fait des personnages un peu poreux qui portent des idéologies qui ne sont pas toujours claires, au risque d'avoir des messages, de véhiculer des messages plus réactionnaires que ce qu'on aurait voulu.
Oui, complètement. Et du coup, peut-être pour terminer le podcast, les amis, parce que ça fait une heure qu'on débat déjà. Tu l'as déjà dit, Benoît, peut-être vous demander une lecture récente qui aborde le capitalisme dans Batman et qui vous a qui vous a plu ou déplu peut-être, mais c'est vrai qu'on a cité aussi peut-être des vieux récits, donc est-ce qu'il y a des choses récentes? Donc Benoît, tu parlais de The Riddler année 1 de Paul Dano.
Ouais, il y a celui-là, je l'ai trouvé très très bien, je pense qu'on y reviendra dans un prochain podcast, ouais, mais j'ai trouvé pas mal en préambule du film, et puis surtout pour l'intrigue qui est à l'intérieur justement, et qui parle que de chiffres, hein. Mais au niveau capitalisme, je recommanderais, je crois que c'est dans Nightwing tome 1, là le récent, où justement oui. On a Nightwing qui hérite de la fortune d'Alfred, et qui en fait quelque chose, une fondation encore une fois, puisque c'est un homme de la rue, hein, mine de rien, c'est quand même un saltimbanque d'un cirque, à qui on file d'un coup tout cet argent, même si c'était quand même le pupille de Bruce Wayne et son fils adoptif, il a quand même eu pour plusieurs années une certaine aisance. Mais là, bon, apparemment, il se voit arriver des millions et des millions. Et la première chose qu'il en fait, finalement, c'est en faire don. C'est créer une fondation et pour aider les plus nécessiteux. Donc voilà, un récit aussi récent, c'est ça qui me vient à l'esprit.
Anaïs, du coup ?
Moi, c'est également Nightwing, donc une lecture où je suis, dans laquelle je suis actuellement. Je dirais même que tout à l'heure, on disait que l'argent était très peu abordé en tant que tel, c'est-à-dire on ne discute pas d'argent en famille, on ne se demande pas, Batman ne se demande pas avec quoi je peux faire, enfin, qu'est-ce que je peux faire de mon argent. Et là, dans le Nightwing 1 et 2, c'est bim, direct, on se pose vraiment la question, c'est-à-dire Nightwing va voir Superman. Il lui dit, bah, écoute, j'ai un souci, je suis trop riche et j'aimerais bien faire quelque chose de mon argent. J'ai hérité d'une somme conséquente et en fait, je veux utiliser cet argent. Alors moi, ça m'a fait penser au fait que pourquoi Batman ne parle jamais d'argent ? Parce qu'en fait, il est complètement déconnecté de ça. Il a toujours vécu, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme on dit. Et donc, pour lui, c'est pas un problème. C'est-à-dire, il a jamais vécu dans la faim, dans la peur de pas avoir d'argent, donc on n'en discute pas. Nightwing, oui, c'est ce que tu disais, Benoît. Lui, il vient d'une classe sociale comme tout le monde, on se pose des questions sur l'argent, quoi. Donc, bah, dès qu'il a plein d'argent et qu'il doit dépenser ou maîtriser cet argent, bah, il se pose les questions parce qu'il ne sait pas comment faire déjà. Il se dit, ben, je ne vois pas pourquoi je le garderais pour moi et qu'est-ce que je peux en faire. Il se pose les questions vraiment pratico-pratiques que ne se pose pas Batman, parce que de toute façon, Batman, pour lui, ce n'est pas une question parce qu'il a jamais vécu dans le besoin. Et pour lui, l'argent, il n'en a jamais été question, en fait. Tandis que pour lui, ça a été une question. Voilà, pour moi, c'est une différence entre les deux.
Je trouve que tu vois un peu l'éducation aussi de Batman sur... Bah, cet argent-là, t'en as,
oui.
Et tu vas aider les autres. Et en effet, lui, Dick Grayson, ses parents étant dans le milieu de la foire et du cirque, sont pas, je pense, hein, je ne connais pas personnellement, mais ce ne sont pas forcément des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, ou en tout cas, ça peut être précaire pour certaines personnes. Donc, il a en effet cette valeur de l'argent, et du coup, il a une valeur encore plus morale, qui est combiné, j'ai l'impression que c'est un peu le cumul des éducations qu'il a eues, de par ses parents biologiques et de par ce père adoptif qui lui a montré aussi que tout l'argent que possède Batman ne lui est pas que destiné.
C'est un mélange de tout ça, ouais. Pour moi, c'est un mélange de tout ça, ouais. Et donc, bah, les conséquences, c'est qu'il fait ce que devrait faire Batman, ce que Batman fait peut-être, mais dont on ne parle pas, c'est-à-dire il crée des foyers pour les jeunes, il crée des quartiers pour recueillir les jeunes qui sont dans la rue, il essaye de faire quelque chose pour changer Blue Davenson. Là aussi, la volonté est clairement affichée, contrairement à la volonté de Batman, qui est de qu'est-ce que je peux faire pour changer Gotham, me battre contre les vilains. Lui, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer Blue Tavern, c'est dépenser de l'argent et faire quelque chose avec cet argent. C'est financer plein de choses. Voilà. C'est exactement ce dont on parlait, en fait. On parle depuis le début. Exactement. Nightwing est l'exemple même du bon capitaliste qui réfléchit à tout ça.
Siegfried.
Moi, je pense au Batman One Bad Day, Ra's al Ghul de Tom Taylor, dessiné par Ivan Reis. Donc là, je vous renvoie à ce qu'on, bah, au podcast qu'on avait fait à la fois sur ce comics et sur le Poison Ivy Infinite. Justement, je pointais du doigt le fait que Poison Ivy commençait avec une vilaine qui avait vraiment une volonté de détruire toute l'humanité pour lutter contre les dérives du patriarcat capitaliste impérialiste qui détruisait la nature. Et donc, le seul moyen pour elle de restaurer le. De restaurer le, de restaurer la, de restaurer le monde, de sauver le monde, c'était de détruire l'humanité. Donc il y avait quand même ce discours politique qui était assez puissant et qui était complètement dévoyé. Finalement, c'est ça qui était intéressant aussi, c'était de voir à quel point les auteurs, les autoristes, enfin notamment les autrices, ne parvenaient pas à assumer leur discours politique et finissaient par le diluer dans quelque chose d'assez médiocre. Et par opposition à ça, le Batman One Bad Day, Ra's al Ghul était particulièrement intéressant parce qu'on y voyait Ra's al Ghul assassiner une trentaine, je crois, de PDG qui détruisait la planète. Il est intéressant de voir comment et pourquoi Batman luttait contre Ra's al Ghul, alors même que Ra's al Ghul, pour le coup, enfin on n'avait jamais vu de comics où Ra's al Ghul était à ce point positif, entre grosses guillemets évidemment, mais au point que Batman ne s'oppose à Ra's al Ghul que parce que Ra's al Ghul tue des gens, et qu'évidemment toute vie est sacrée à Batman, mais il ne parvient pas à lui opposer le moindre argument politique. Et en fait, on sent que Batman est complètement en accord politiquement avec le combat de Ra's al Ghul, et simplement, il désapprouve cette méthode, mais en même temps, lui n'a pas d'autre méthode à proposer. Il n'a rien de plus efficace à proposer que la mort de ses PDG, parce que lui-même ne parvient pas, en fait, à lutter contre le capitalisme de façon aussi efficace que Ra's al Ghul, qui peut simplement les assassiner. Et même quand il combat Ra's, c'est toujours lutter contre lui parce que c'est un meurtrier, et pas lutter contre lui parce qu'il aurait parce qu'il voudrait quelque chose de mauvais. Et ça, c'est une idée qui traverse vraiment les 60 pages du comics, cette espèce d'admiration réciproque de Ra's sur la morale de Batman et de Batman, malgré tout, dans la puissance du combat de Ra's qui enfin parvient à changer les choses et qui parvient à changer les choses. Ça, c'est l'avantage d'être évidemment hors continuité, c'est que pour le coup, Ra's parvient à avoir un combat efficace, alors que dans la continuité, ça ne serait pas possible, parce qu'évidemment, comme on l'avait déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas changer le monde des comics. Et donc, c'est un des comics les plus efficacement politiques. Et y compris d'un point de vue économique que j'ai lu depuis un certain temps. Et même si malheureusement, c'est dans un petit comic de 60 pages et j'aurais aimé le voir sur quelque chose de plus long, voire en continuité, parce que vraiment, il y avait de quoi porter un discours assez percutant, c'est une lecture qui est extrêmement rafraîchissante de ce point de vue. Et ça fait du bien de voir que ça peut encore exister. C'est presque étonnant, en fait, de se dire que quelqu'un comme Taylor est dans une collection aussi marketing que One Bad Day a pu sortir quelque chose d'à ce point de gauche, en fait.
Là, c'était vraiment la vision à long terme de Ra's al Ghul, alors que Batman est sur une vision à court terme, quoi.
Il est dans un idéalisme moral, et malheureusement, l'idéalisme moral n'est pas toujours compatible avec le fait de vraiment modifier le monde. Et du coup, c'est presque une apologie d'une certaine violence de gauche, ou d'un activisme en tout cas radical. Et c'est puissant d'avoir ce genre de discours dans la comics Batman. Et je n'avais pas lu une telle radicalité, en fait, depuis les comics de Miller. Donc c'est. Ouais, c'est assez surprenant.
C'est globalement une bonne collection. Hein. On a déjà parlé et revenu sur certains titres qui étaient bons. Après, ce qui revient souvent, c'est le format, en effet, qui est un peu court et peut-être qui se noie aussi dans ce côté un peu trop marketing où les personnes ne vont peut-être pas y aller justement parce que c'est court, que ça peut être cher et que ça peut ne pas forcément être très... comment dire, nouveau et impactant comme un nouveau Sean Murphy, alors qu'il y a des très très bons numéros. Moi, j'avais adoré celui sur le pingouin, notamment. On avait parlé dans un autre podcast. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les amis, sur Cactus. Ce sujet ou, Ok, très bien. Il y a possiblement des cactus à Gotham. Hein, on demandera à Xavier Fournier qui fait une topologie de la ville. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour sur le sujet. C'était vraiment passionnant de discuter capitalisme et Batman. N'hésitez pas, vous, si vous avez des remarques, s'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas abordées, que vous voulez aborder, de nous dire en commentaire sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X, mais aussi en commentaire sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Et puis nous, on vous dit à bientôt, on va sûrement se retrouver pour un Bat Reviews et voilà, je vais pas faire la fin de Nico parce que je ne suis pas Nico. Je ne sais pas quand moi je reviendrai, mais en tout cas je serai avec plaisir avec la team pour continuer à parler de comics et de Batman. Salut tout le monde.
Salut, salut.